Et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. L'actu est dure, le monde asphyxie. On a une heure devant nous pour retrouver un peu d'air. La grande matinale Le Mag, c'est parti. Avec Mao Drama, qui se demandera tout à l'heure si on ne nous prend pas un peu pour des cons, avec la délicieuse Alix Van P, qui présentera les nouvelles têtes toute la semaine. Et à 9h30, vous retrouverez le débat du jour. On repart en Iran. Quel lendemain pour les Iraniennes et pour les Iraniens. Deux femmes iraniennes viendront en discuter à mon micro. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Après le succès ahurissant de L'Amour Ouf, 5 millions d'entrées, Gilles Lellouche, réalisateur, est redevenu acteur. Dans un polar dystopique, Chien 51, puis dans un futur, Jean Moulin. Entre les deux, le voici dans une comédie hommage à Alfred Hitchcock avec Laetitia Casta. Ensemble, ils rejouent Fenêtre sur cour. Bon, Casta en Grace Kelly, blonde hitchcockienne, on voit. Mais Gilles Lellouch en James Stewart. Qu'ont-ils en commun ces deux-là, sinon le pyjama? Je vais vous le dire, la tête du bon gars poivre et sel, naturel et un poil maladroit, séducteur malgré lui, capable de sortir un Colt, mais aussi de se prendre les pieds dans le tapis. Le cinéma a besoin de mecs comme ça, dans lesquels se reconnaissent à la fois les forts et les faibles. Portrait numéro 98. Et bonjour Gilles Lellouche.
Et bonjour.
Le crime du troisième étage de Rémy Besançon, donc avec Laetitia Casta, en prof de cinéma très 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 excessive, qui regarde chez le voisin et qui ne peut pas s'en empêcher, avec Guillaume Gallienne,
ouais.
En Hamlet machiavélique, complètement déglingo, qui a peut-être tué sa femme, ou pas.
Absolument.
L'avenir vous le dira. Ça sort la semaine prochaine au cinéma. Quand je dis que vous avez un point commun avec James Stewart en pyjama, vous aviez déjà tourné au cinéma en pyjama ?
J'avais déjà tourné au pyjama, oui, notamment
et
le...
voilà une question très inattendue, il fallait venir sur France Inter.
Je suis content que vous me la posiez, je rêvais qu'on me la pose. Oui, dans le premier film de Rémy Besançon qui s'appelait Ma vie en l'air, justement, avec qui j'ai tourné il y a 20 ans, qui m'a ouais. offert mon premier rôle, on va dire, de plus de 3 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Et je faisais un Ludo, un type qui passait vraiment ses journées sur le canapé à fumer des joints et à rester en pyjama.
Donc chaque fois que Rémy Besançon cherche un acteur pour interpréter un mec qui passe beaucoup de temps sur le canapé et qui porte des pyjamas,
ouais.
Il pense à Gilles Lellouche.
Oui, c'est ça que j'évoquais, lui. Ouais.
Et à l'époque, ça avait été une révélation.
Absolument.
Vous étiez dit, c'est ça d'être acteur.
Absolument. Je m'étais dit, c'est pas mal d'être allongé toute la journée, finalement. Et d'être payé pour ça.
Alors, le crime du troisième étage, bande-annonce.
Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme.
C'est un petit côté fenêtre sur cour, hein, quand même, cet immeuble.
Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. J'ai une mission pour toi.
Ce serait quoi, son mobile ?
J'en ai aucune idée. On va aller fouiller chez eux.
Ça va pas dans ta tête ou quoi ?
Je crée du suspense. Et le suspense génère l'émotion.
Je crois que c'est le truc le plus excitant que j'ai fait de toute ma vie.
Sans émotion, pas de suspense.
Pas du tout une parodie d'Hitchcock, pas du tout un pastiche d'Hitchcock, mais en réalité un film pour les fous d'Hitchcock, ce qui ouais. est très différent.
Ouais.
C'est un film d'amoureux du cinéma, d'amoureux d'Hitchcock, et pas une façon de refaire Fenêtre sur cour.
Oui, parce qu'en fait c'est un film hommage qui est très...
C'est ça.
C'est une fantaisie autour d'Hitchcock, en fait. C'est un film qui se sert des références, des rebondissements hitchcockiens, pour finalement, c'est un prétexte à la reconquête d'un couple.
Mmh.
Et c'est ça que je trouve, moi, c'est ça que j'ai adoré dans ce film. C'est finalement passer par périphériquement Hitchcock, les films noirs, les films d'enquête, pour finalement arriver à
pour séduire les
Laetitia. Ouais, exactement. Non, mais en fait, c'est un couple qui est un peu en perte de vitesse, en quête de sens. Et qui,
d'où le pyjama et d'où le canapé.
D'où le pyjama, ce type qui se laisse un peu aller, cette femme brillante qui a envie d'aventure et qui va la trouver et qui va finalement embarquer son mari dans cette aventure. Et au fur et à mesure de cette enquête, en fait, Il y a un amour qui renaît, il y a le cœur qui se remet à battre, j'ai envie de dire.
Et alors, vous jouez un écrivain qui pond du polar historico loufoque, plein de, lui aussi, de rebondissements.
Oui, des romans de gare un peu à la con.
Et d'imagination.
Oui.
Ouais.
Oui, mais c'est un peu cucul à praline, quoi. En fait, c'est un peu de cap et d'épée, mais mélangé avec des trucs un peu érotico. Enfin, bon, c'est un peu.
Non, mais c'est ce qui est assez rigolo aussi que Besançon vienne vous rechercher, vous, parce que vous êtes un énorme bouffeur d'histoire, vous. Dans la vie, en réalité. Oui. Un énorme bouffeur d'histoire, raconteur d'histoire, parce que ça, c'est votre vie maintenant de scénariste et de cinéaste, et aussi un énorme bouffeur d'histoire.
Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous estimez par bouffeur d'histoire? Ça veut dire quoi, bouffeur d'histoire?
Ah, je sais pas.
Bouffeur d'histoire, c'est-à-dire boulimique de cinéma, vous voulez dire?
Ouais, par exemple.
Oui, probablement. Probablement que la fiction est un appel, la fiction comme une soustraction au réel, oui, c'est certainement, oui.
Comme une soustraction au réel?
Oui.
Ouais, c'est marrant.
Oui.
Ouais, c'est marrant. C'est venu comment?
Oh, c'est venu, je pense que c'est lié à mes premiers amours adolescents où je dessinais beaucoup. Mmh. Où à la base, je voulais me consacrer au dessin, à la peinture, je voulais faire les beaux-arts. Bref, ça a été contrarié par les cours Florent. Mais je pense que déjà...
C'est-à-dire que l'image, c'est venu par le dessin.
Oui, absolument. Et puis, encore une fois, quand je vous dis la soustraction au réel, c'était en fait, c'est une plongée dans votre imaginaire. C'est un pays qu'on s'imagine et le dessin, par exemple, on ne voit pas le temps passer quand on dessine, on est dans une autre réalité. Ce qui est à peu près la même chose quand on joue ou quand on réalise. Ouais.
Parce que moi, je me suis demandé si la génération qui avait pris le pouvoir aujourd'hui, la vôtre, celle des darons du cinéma aujourd'hui, sont pas les anciens ados qui collectionnaient les VHS. Si c'est pas la génération vidéo. Club.
Absolument.
La génération
vidéo.
Ah
oui, absolument. En tout cas, en ce qui me concerne, à 100%.
À 100%.
Oui, oui.
C'est ça, parce que la génération d'avant, elle a fait sa culture cinéma en regardant l'ORTF et les ciné-clubs. Et notre génération, parce qu'on a le même âge, notre génération, c'est la génération vidéo-club.
Oui, avec tout ce que ça implique de mélange des genres, en fait.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que moi, j'aime tous les genres de cinéma, comme j'aime tous les genres de musique. Je ne m'arrête pas. Enfin, j'aime les films d'horreur, j'aime les films...
Donc le cinéma de genre, tout. Série B au kilomètre.
Exactement, la VHS.
La VHS.
La culture VHS dans toute sa splendeur, oui.
Ouais. Et alors, question à laquelle chaque personnage du film dans Le Crime du Troisième Étage doit répondre, mais donc vous, Gilles Lellouche, quel est le film d'Hitchcock que vous préférez?
Votre favori? Mon favori, parce que c'est un film d'aventure essentiellement. C'est La mort aux trousses. Ouais, je crois que c'est le premier que j'ai vu d'Hitchcock. Il m'a marqué parce que je trouve que c'est une mécanique qui est implacable, quoi. Mm. Ce type ordinaire plongé dans cette aventure.
Donc
folle.
Plus Cary Grant que James Stewart.
A priori. Pour Hitchcock, hein. Parce que là, pour la référence, je suis très très loin.
Parce que quand même. Ouais. Et quand Hitchcock dit que un film est réussi quand un méchant est réussi, d'abord vous dites la même chose.
Absolument.
Ouais.
Là, en l'occurrence, avec Guillaume Gallienne, on est servi, parce que ce qui est génial dans le film avec Guillaume, c'est qu'il ce grand acteur de théâtre qu'il est, il joue avec son image, il s'auto-référence, enfin, c'est très très drôle.
Oui, c'est ça. Et alors, le vrai méchant, le vrai bon méchant pour vous au cinéma, c'est qui, c'est quoi?
Je dirais Javier Bardem dans No Country for Old Men.
Ah ouais. Allez, Hitchcock.
Bonsoir, je m'appelle Alfred Hitchcock. Quand les électrons traverseront votre écran, ils nous feront connaître une forme inédite de meurtre. J'entends par là le crime silencieux, perpétré uniquement par notre esprit, à la manière douce, une onde apaisante, sans balles qui sifflent aux oreilles, sans plaies béantes, sans taches ni fumée. Nous entrerons dans l'abstraction criminelle à l'état pur.
Vous êtes fou, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes fou, monsieur.
Gilles Lellouche qui commence par dessiner, ensuite qui va prendre des cours de théâtre au cours Florent, ensuite qui va connaître quelques années de galère, on va en reparler, c'est pas venu instantanément.
On peut pas dire ça, non.
Mais qu'est-ce qui fait que chez les Lellouche, on devient un saltimbanque?
Je crois que c'est des choses qui sont des influences qui sont très indirectes. Qui sont pas frontales, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des parents qui...
Vous avez un grand frère?
J'ai un grand frère qui fait du théâtre, qui fait de la radio. Oui, on fait à peu près le même métier et c'est vrai que ni mon père ni ma mère nous ont influencés directement. Ma mère plus indirectement, je
Pourquoi
pense, parce que le monde des artistes l'a toujours un peu fasciné, qu'elle était chanteuse quand elle était jeune.
Elle était chanteuse ?
Elle était chanteuse avant de rencontrer mon père, ouais, ouais. Et donc elle a fait
elle
quelques galas, elle faisait des galas à droite à gauche dans les années 60. Et quand elle a rencontré mon père...
Donc vous l'avez jamais vu chanter,
non,
c'était avant votre naissance.
Non, je l'ai entendu chanter souvent,
ouais,
à la maison, je l'ai jamais vu chanter sur scène, non. Mais je pense que voilà, il y avait une fascination de ma mère pour les artistes, et mon père était très cinéphile. Donc il regardait beaucoup de films, donc nous, de la même manière, quoi. Donc en fait, je crois que c'est des choses qui sont pas frontales, mais qui infusent comme ça.
Ouais. Et alors, vous avez réalisé des clips, vous avez joué dans des pubs. Moi, je croyais que c'était une légende Wikipédia, comme il entraîne parfois dans les biographies d'acteurs le coup de la pub Banco, on gratte et
ah non non non, c'est
et
vrai,
sa banque illico.
Oui, c'est vrai.
Mais j'ai vérifié, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Premier salaire, c'est une pub Banco.
C'est ouais. Ça, c'est une pub Banco. Mais... J'avais en revanche complètement omis cette expérience de cinéma avec Ophélie Winter et Jean-Marc Barr.
Grande expérience de cinéma.
Grande expérience de cinéma.
Sur le film.
Que vous m'avez raconté dans le couloir. Elle nous dit, mais...
Oui.
Celle-là, elle a échappé à vos biographies officielles,
oui.
c'est ça
pas, c'est pas plus mal. Des fois, c'est Wikipédia fait bien les choses.
C'est ça. C'est-à-dire oui. que le, comment dire, les annales du cinéma français, parfois, ont des trappes et des gouffres.
Ouais, qui nous arrangent. Hein, je dois vous avouer.
Donc, vous avez mis du temps pour vous retrouver tout en haut de l'affiche.
Ouais, j'ai mis du temps, mais comme j'étais nourri par le fait de réaliser des clips vidéo dans les années ouais. 90, qui était la grande période du ouais. clip vidéo, donc en fait j'ai été nourri
donc une école formidable.
Une école absolument géniale. J'étais en plus dans une production où j'ai côtoyé Michel Gondry, Quentin Dupieux, etc. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans le centre de ce que le monde faisait de plus créatif et de plus moderne et de plus...
Et Gondry, Dupieux, la voilà la génération Vidéoclub.
Exactement.
La ouais. génération de passionnés de ouais. références du cinéma qui ont bouffé du cinéma de genre et qui a rendu hommage au cinéma de genre comme
exactement.
Tarantino toute sa carrière.
Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, ouais, non, c'était... Donc, j'ai pas eu le sentiment de galérer, d'aller frapper à la porte de toutes les productions pour essayer de tourner. En fait, je n'avais pas très envie de tourner, puisque je tournais moi-même des choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Sauf que quand Rémy Besançon vous propose Ma vie en l'air, ce rôle en pyjama,
ouais.
c'est quand même le début de quelque chose. C'est vraiment le début de votre métier d'acteur et de votre envie d'être acteur.
Oui, 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 parce qu'en fait, tout d'un coup, je suis avec un metteur en scène si enthousiaste, une équipe... Puis je reste un peu plus de 3 jours, encore une fois. Hein. J'ai un grand rôle, donc je suis pendant un mois sur le plateau. Je vois à quel point c'est joyeux, familial, collégial, collectif. Ça me bouleverse. Et en plus, le film est super. Et en plus, je suis nommé au César. Et en plus, c'est un succès. Et là, ma vie change du tout au tout.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je passe de 1,5 scénario par an à 10 par semaine, quoi.
En termes de propositions.
Ah oui, c'est fou.
Ouais,
c'est affolant.
Ouais. Jusqu'au scénario envoyé par Jeannery, qui est pupille. Et là, c'est quand même, ça met 10 ans. Hein.
Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est de la... J'ai été, on va dire, brinque-ballé dans pas mal de genres de cinéma, notamment beaucoup le polar, les films policiers, dans lesquels, ouais. au bout d'un moment, j'ai tout fait, réellement.
Ouais.
Et c'est vrai que la venue de Jeanne dans ma vie était bienvenue, oui. Et ce scénario, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que quand elle me l'a fait lire, ce qui était un délicieux hasard quand même. J'étais en train de préparer Le Grand Bain,
ouais.
et elle écrivait Pupille au-dessus de moi.
Comment ça ?
En fait, on était dans les mêmes locaux. Elle avait le bureau juste au-dessus du mien, donc elle entendait ma voix toute la journée. Et elle m'a dit indirectement, ta voix a dicté la voix du personnage. Et je ne voyais plus quelqu'un d'autre que toi pour l'incarner. Donc elle est venue me proposer le film dans cette optique-là.
Et c'est une histoire de voix.
C'est une histoire de voix. Et c'est une histoire de voix. Ouais.
Parce que ça deviendra une bouleversante histoire de paternité.
Absolument.
Et puis donc on est
absolument.
Très très loin du Colt. Je dis.
Ouais, oui, oui,
disais
oui,
James Stewart, c'est quand même un acteur qui a fait du western
ouais.
et qui a fait Mr. Smith au Sénat,
ouais,
donc
ouais.
Et qui est ce grand gars maladroit qui se prend les pieds dans le tapis, mais qui est aussi un cow-boy redoutable.
Absolument.
Donc c'est à la voix qu'elle vous a fait changer de registre.
Exactement.
Ça c'est très beau.
C'est très beau. Et puis c'est à la voix et c'est à la douceur de son regard aussi et ça et la pertinence de sa proposition parce que objectivement. Elle a vu l'homme que je suis derrière le flingue dégainé.
Ouais.
Vous voyez.
Ouais.
Donc j'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer.
Et alors,
dans ma vie.
Quand la semaine dernière, ou il y a 15 jours, mais je crois que c'était la semaine dernière, vous vous retrouvez en couve de Télérama avec une espèce de photomontage très très sidérant ou très saisissant, on va dire. Donc on voit votre visage.
C'est un peu le principe, hein, je crois que c'est.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
On voit celui de Jean Dujardin, on voit celui de Virginie Efira ou de Pierre Ninet, d'Adèle Exarchopoulos reproduit à l'infini. C'est une foule d'acteurs reproduits à l'infini. Ils ont tous vos visages. Et en gros, c'est où sont les nouvelles têtes? Pourquoi toujours les mêmes? Le système est en train de crever. Il est en train de s'assécher complètement. On ne fait pas surgir de nouveaux talents. Vous, quand vous prenez cette couve de Télérama, avec l'histoire que vous venez de nous raconter, vous la vivez comment?
Je la vis de façon un peu, pour être très honnête, un peu injuste. Parce qu'on est justement dans une époque où le cinéma français regorge de nouveaux talents.
C'est vrai ?
De nouvelles actrices, de nouveaux acteurs, absolument. Ah
ouais, donc vous n'avez pas du tout le même regard. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'acteur et le réalisateur qui parlent.
Et puis oui, surtout un réalisateur qui a fait un film à gros budget avec deux ados en premier rôle. Donc on ne peut pas dire que moi j'éclipse...
Qui occupe une bonne moitié du film.
Donc on ne peut pas dire que moi j'éclipse la nouvelle génération.
D'ailleurs, vous ne vous mettez jamais en scène dans...
Je ne me mets jamais en scène dans mes films. Pourquoi ? Et puis parce que j'ai la chance de faire mon métier d'acteur d'un côté, et que pour moi, le métier de réalisateur est totalement différent, autre. C'est un autre regard.
Ouais.
Je suis, j'ai un gros ego, mais pas de l'âme dirigée, non.
Ouais. Pas de l'âme dirigée.
Non, et puis encore une fois, pour revenir à cette coupe de Télérama, je pense que Télérama est un magazine pertinent, mais là, ils ont visé un peu à côté.
C'est vrai. Ouais. C'est comme ça que vous l'avez vécu.
Ouais.
Ouais, et que vous le percevez. On vous verra bientôt incarner Jean Moulin dans un biopic, comme disent les Américains, réalisé par le très grand Laszlo Nemes. D'abord, quand je dis que vous êtes à un moment de votre carrière où non seulement vous en avez fini de sortir des Colts, quoique, hein, vous avez continué avec Jiménez à faire des flics tous plus torturés et dark les uns que les autres, mais vous avez fait pupille, mais vous faites de la comédie, vous revenez à la comédie d'ailleurs avec Besançon. Et là, c'est un immense rôle de composition, Jean Moulin. C'est un immense rôle de composition.
Ah, c'est un immense rôle de composition. La charge était lourde, hein. Et je me suis jamais départi du trac qui m'a enseveli dès la première lecture du scénario. En fait, j'avais absolument pas... Ah oui, j'ai eu un trac fou. J'ai eu un trac fou, tous les jours. Bien sûr, j'ai eu la peur viscérale de trahir ce personnage. Et surtout, je ne voulais absolument pas qu'on voit l'acteur. Je voulais pas faire de performance d'acteur. Je ne voulais absolument pas... je voulais juste rendre hommage à cet illustre personnage-là.
Je crois que vous êtes le premier acteur de cinéma à ce micro, depuis on est presque à 100 portraits, à parler de trac sur un plateau de cinéma. Tous les acteurs qui sont passés à ce micro, de Pierre Ninet à Lafitte et tout ça, parlent du trac de monter sur une scène de théâtre, mais alors d'un trac à en vomir dans les coulisses. On a le trac aussi cinéma.
Oui, parce que...
Alors qu'on a le droit à 150 prises.
Oui, mais déjà, quand vous êtes avec Laszlo Nemes, vous n'avez pas franchement le droit à 150
c'est
prises. Oui, parce que c'est une autre manière de faire. C'est le cinéma comme une religion, de façon très concernée, concentrée. Vous répétez énormément, il tourne en 35 mm.
Ah oui, il tourne en pellicule.
Ce qui est un luxe qui n'existe plus ou que très peu.
Oui.
Donc en fait, les prises, elles sont comptées. Et donc, dans cette optique-là, et puis, c'est le trac de la confrontation avec ce réalisateur, de la confrontation avec
personnage.
Lars Eidinger qui faisait Barbie. Et puis moi, ce personnage, c'est-à-dire... essayer d'être toujours à la lisière de l'incarnation et de la désincarnation.
Et là, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que Antonin Baudry va bientôt sortir un De Gaulle, un immense De Gaulle, alors une fresque, en deux épisodes, fin juin, début juillet, avec le banc et l'arrière-banc du cinéma français. Donc un très grand De Gaulle, ce qui est hyper intéressant.
Ils ne sont pas sur la coupe de Télérama, du reste.
On va voir. Mais c'est vrai, vous avez raison.
Ouais.
Que pendant ce temps-là, Jean Dujardin vient de terminer avec Xavier Giannoli un Jean Luchaire. Donc Jean Luchaire, c'est un personnage moins célèbre évidemment que Jean Moulin. Jean Moulin, c'est le grand résistant. Jean Luchaire, c'est le patron de presse qui devient collabo et qui est exécuté à la fin de la guerre pour fait de collaboration avec les nazis. Mais c'est comme si toute notre génération se concentrait sur ce passé-là, sur la guerre. Pourquoi, à votre avis ?
J'ai bien peur que ça fasse écho avec notre époque, une grande peur d'un une valeur, à la fois une valeur refuge et à la fois une valeur, on va dire, réelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de passé qui se confronte au présent, qui est assez vertigineux. Et donc, j'ai l'impression qu'on a besoin de se remémorer l'histoire, d'être référent exact de ce qui nous est arrivé, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, et que probablement... L'histoire étant faite que de l'homme par l'homme ou pour l'homme, c'est-à-dire on est les seuls à la traduire cette histoire. Donc si on peut très vite la travestir, on peut très vite l'oublier. Donc il est bon de s'en référer. Ouais.
Évidemment, pile au moment où les derniers survivants, c'est-à-dire ceux qui ont vécu cette histoire, absolument, sont en train de disparaître.
Exactement.
Alors en attendant, bouffée d'air, bienvenue dans une actualité terrorisante
oui, oui, oui.
Et dans un climat très anxiogène. C'est le crime du troisième étage, c'est Rémi Besançon derrière la caméra et devant c'est Laetitia Casta, Guillaume Gallienne, Gilles Lellouche. Merci d'être venu
sur France
Inter ce matin.
Beaucoup.
Donc c'est votre tour à la comédie et si quelqu'un comprend à la fin de ce film ce que c'est qu'un MacGuffin, il est le bienvenu à ce micro pour nous l'expliquer. Moi j'ai toujours pas compris.
Moi non plus.
C'est la totale. Allez, The Temptation, et on continue.
Slept in our chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my troubled mind. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance and don't let life pass you by. But the wild reality of a rat race, where only the strong is survive. It's a doggy dog world, and that ain't no lie.
Ain't no lie.
It ain't even safe no more to walk the streets at night.
I'm doing fine on cloud nine.
Let me tell you about cloud nine. You can be what you wanna be.
Cloud nine.
You ain't got no responsibility.
And I'm the man, every man is free.
Cloud nine. You're a million.
Est-ce que toutes les journées ne devraient pas commencer par The Temptations? Ma réponse est oui. Vous êtes dans le mag de la grande matinale, vous êtes sur France Inter, on est ensemble jusqu'à 10h avec Mao Drama. Bonjour Mao, vous êtes
bonjour.
Toute la semaine à ce micro et c'est une joie. Alors,
De quoi vais-je parler? Eh bien, je vais parler de l'appauvrissement du discours politique, comme si on nous parlait comme à des gosses, un peu comme si on nous prenait pour des cons.
Très bien, et bonjour Alix Van P.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, les nouvelles têtes, ce sera avec vous toute la semaine et ce matin.
Eh bien, ce matin, je vais recevoir Maxime Rochman, un humoriste très suivi sur les réseaux sociaux, extrêmement drôle et grinçant quand il imite des start-upers, des faux intellos ou des parisiens insupportables. Il y en a quelques-uns, je pense.
Bah, très bien, à tout à l'heure. Allez, il est 9h30 et c'est le débat du jour.
De la résidence et des bureaux du guide suprême iranien, il ne reste rien.
Oui.
Ce matin, sur le toit d'un immeuble, une habitante filme la fumée après une frappe sur le quartier du guide suprême et ne peut retenir sa joie.
À Téhéran, pas encore de manifestation, mais déjà des images de liesse sur les réseaux sociaux.
Retour en Iran dans le débat du jour avec la mort samedi d'Ali Khamenei, tué par les frappes israélo-américaines. Une page de l'histoire sanglante de ce pays s'est tournée, mais une autre, beaucoup plus incertaine, est en train de s'ouvrir. Alors on pose ce matin la question, dans le chaos de la guerre, quel lendemain pour le peuple iranien ?
France Inter, la grande matinale Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec deux franco-iraniennes, Shirin Ardakani, bonjour.
Bonjour.
Shirin, vous êtes avocate, notamment du prix Nobel de la peine, Arjès Mohammadi, que vous avez accompagné plusieurs fois dans ses studios, non pas physiquement, mais c'est sa voix, que nous avions recueillie alors. Vous êtes aussi présidente de l'association Iran Justice, qui documente les crimes de l'État iranien. Face à vous, Hamdan Mostafavi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Hamdan, vous êtes directrice adjointe du quotidien Libération. Alors, comment d'abord, un premier mot, vous qui êtes franco-iranienne, avez-vous réagi toutes les deux aux événements de ce week-end qui veut commencer ?
C'est évidemment, c'est des sentiments très mêlés. C'est très mêlé parce que d'un côté, il y a la guerre. Donc la guerre, c'est la destruction, c'est des civils sous les bombes, c'est la décision unilatérale d'un président qui est à des milliers de kilomètres, qui ne connaît pas le terrain et qui décide de manière arbitraire de bombarder des gens, des vrais gens, qui sont comme vous et moi, et qui sont chez eux et qui craignent. Et évidemment, les frappes chirurgicales, on sait tous que ça n'existe pas et que même si on veut tuer des gardiens de la Révolution et plein de gens affreux, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le droit international. Oui. J'imagine que Shirin y reviendra. Mais après, c'est vrai que moi, je me souviens, comme si c'était hier, du jour où Khomeini, le fondateur de la République islamique, est mort en 1989. J'étais enfant, j'ai réveillé mes parents, j'ai dit « Khomeini est mort, on rentre en Iran ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aussi un peu ce sentiment que quelque chose de stratosphérique s'est passé. Ouais. Que ce père fouettard qui était là, qui régnait sur tout un peuple, a disparu, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué, et que c'est un moment de nuance, et que je pense qu'il ne faut pas être trop radical. Enfin, il faut en tout cas comprendre que c'est un moment de nuance, et que pour tous les franco-iraniens, pour tous les iraniens aussi, c'est un moment particulier, parce que, évidemment, le dictateur est mort. Après, comme vous l'avez dit, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisses. Beaucoup d'angoisse, en fait. Voilà, on ne sait pas où on va. On sait que ça peut être encore plus.
Mais en chaque iranien de la diaspora ou iranienne de la diaspora, il y a un petit garçon, une petite fille qui s'est réveillée là au milieu de la nuit et qui a dit « Papa, maman, on rentre en Iran ».
Voilà.
En fait, c'est ça qui est très émouvant. Shirin Ardakani.
Mais moi, j'ai eu une formule tard dans la nuit parce que j'ai eu du temps avant d'assimiler en fait cette nouvelle, parce que je vais vous donner un exemple très concret. Pour la marche du 8 mars, on avait l'habitude, nous les militantes pour l'égalité, d'écrire Khamenei, t'es foutu, les femmes sont dans la rue. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait plus l'écrire parce qu'en fait, il était mort. Mmh. Et donc, ça laisse un vide parce que c'est un des plus grands criminels contre l'humanité, mais il n'est pas mort de façon banale. Et là, il y a quand même un conflit d'identité parce que moi, je suis avocate. Et il a été tué. Et il a été tué par une frappe illégale. Mais je peux comprendre que les Iraniens s'en réjouissent parce que c'était là leur bourreau. Et en même temps, il a été
Mais vous êtes
assassiné.
Iranienne aussi. C'est-à-dire que vous êtes à la fois
une femme
qui a souffert et une avocate, à la fois une Française et à la fois une Iranienne.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tout ça à la fois. Et donc, quand je vois les Iraniens qui se réjouissent de la mort de leur bourreau, je suis en empathie avec eux. Je partage cette joie, cette souffrance, même si moi, je ne peux pas, à titre personnel, me réjouir de la mort de quelqu'un, mais je ne le pleure pas. Et en même temps, je me dis que c'est un des plus grands criminels contre l'humanité, mais aussi qu'il aurait dû être jugé pour les milliers et les milliers d'Iraniens, pour toutes ces familles, dont la mienne, dont il a fait des victimes. Il y a des gens qui ont été exécutés par ce bourreau. Ouais. Et il aurait dû rendre compte de ces crimes-là par et pour les Iraniens devant une justice iranienne.
Et donc vous déplorez la violence de la frappe et l'illégalité de la frappe israélo-américaine. Et vous voyez aujourd'hui les Iraniens pris entre le marteau et l'enclume ?
Moi, ce que je dis, c'est que les Iraniens en fait, ils n'ont que des mauvais choix. C'est-à-dire qu'au fond, on vient leur dire il n'y a aucune alternative possible pour vous. En fait, c'est soit les balles de votre dictateur, on l'a vu le 8 et 9 janvier, il y a eu des milliers et des milliers de morts dans la rue qui ont été cruellement assassinés par le régime de Khamenei. Et au fond, ce qu'on leur dit, c'est vous choisissez les modalités de votre mort, parce que si ce n'est pas ça, bah, vous allez potentiellement mourir sous des frappes étrangères qui viennent pour vous apporter la liberté. Et au fond, bah, il reste une équation, c'est est-ce que les Iraniens, comme tous les peuples en fait, du Moyen-Orient, comme les Libanais, qui là sont en train d'être frappés aussi bien par les Iraniens d'ailleurs que par les Israéliens, est-ce que les peuples du Moyen-Orient, ils ont le droit à autre chose? Est-ce qu'ils ont le droit à la liberté? Et est-ce qu'ils ont le droit de vivre? Et est-ce que nous,
de choisir.
Et de choisir. Et est-ce que nous, Français, est-ce que nous, membres de la communauté internationale, on a le droit de les aider, mais de les aider loyalement, sincèrement? Voilà, moi, c'est la question que je pose aujourd'hui.
Sans envoyer les frappes. Hamdan Mostafavi, vous vous dites, oui, mais d'un autre côté, on n'en aurait jamais fini avec ce régime.
Oui, je pense qu'après, c'est ce qui est compliqué, c'est que les dictateurs ne sont jamais jugés. Les dictateurs ne sont jamais jugés. On le sait, les dictateurs meurent toujours dans des... Si on arrive à... Soit ils
c'est les 80 voilà. ans du procès de Nuremberg. Voilà. Il y a quand même des précédents dans l'histoire du droit international,
mais beaucoup
et de la justice pénale internationale.
La plupart des grands dictateurs sont morts, soit dans des circonstances, soit tranquillement dans leur lit, soit en exil, soit ont été tués de manière sauvage.
Et c'est déplorable. Il y aurait d'autres moyens d'en finir avec ce régime.
Je pense que malheureusement, les Iraniens se rebellent régulièrement depuis quasiment la fondation de la République islamique. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est que je pense que même maintenant, ça ne suffit pas. Ce n'est pas en envoyant 4 bombes aériennes qu'on va résoudre la question et que le chaos peut être encore pire. Donc, c'est vraiment, on est un peu au milieu du guet et là, c'est un peu, voilà, quel est le but? Quel est le but de guerre? Est-ce que, dans mon édito de samedi, je demandais tout de suite, ok, monsieur Trump, mais quel est le plan?
Alors,
quel est le plan?
Shirin Ardakhani, vous pensez quoi? Que le régime est en train de tomber? Ou écoutez, pas du tout? Vous êtes pessimiste?
En fait, moi, j'ai pas de certitude aujourd'hui. Je pense que quiconque pourrait dire ce qui va se passer dans les prochaines heures, ouais. En fait, c'est pas vrai qu'on sait ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et c'est hyper difficile pour nous de dire, mais que pensent les Iraniens? Mais les Iraniens, ils sont pas homogènes.
Non.
C'est pas une entité homogène.
Non. D'ailleurs, vous êtes pas tout à fait d'accord.
On a autant de proches quand on arrive à les joindre, parce que moi, ça fait 48 heures que j'ai pas parlé à mon père, par exemple, parce qu'il a pas d'accès à Internet. Donc, je ne sais même pas ce que pense mon père. Je vais même aller plus loin. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie. C'est ça aujourd'hui ma question, c'est de savoir s'il a été frappé ou pas, parce que quand on dit qu'il y aura des victimes collatérales, il y aura des dommages collatéraux, mais cette idée, elle m'est insupportable. C'est qui les dommages collatéraux?
Ce sont des vies.
Ce sont des vies,
ce
et potentiellement, ce sont mes parents. Mais elle est insupportable, cette idée. Alors, maintenant, est-ce que c'est un prétexte pour ne rien faire? Et je voyais, en me désolant, il y a quelques heures, que nous sommes prêts, semble-t-il, à envoyer des porte-avions pour aller protéger des bases militaires et pour protéger des intérêts dans la région. Mais ne faut-il pas protéger des vies humaines? Alors, si on a les moyens de déployer de tels moyens militaires, eh bien, ne pourrions-nous pas solliciter des forces, mais des forces, cette fois, de stabilisation, telles que les casques bleus et des Nations Unies, pour sécuriser les rues iraniennes, pour que de nouveau, si les Iraniens doivent aller dans la rue, eh bien qu'ils n'aient pas les balles en face d'eux. Parce que c'est bien beau d'appeler les Iraniens par millions, comme l'a fait Donald Trump, à aller dans les rues, mais qui y va se trouver face à eux? Sinon les milices qui vont les mitrailler. Donc, si nous y allons,
vous
eh bien, allons-y franchement.
Mostafavi, vous êtes effaré par le cynisme de Donald Trump qui dit aux Iraniens « Soulevez-vous à nouveau ».
Bah, disons que c'est un cynisme absolu. Quand en janvier, les Iraniens sont effectivement dans la rue, des milliers d'Iraniens sont dans la rue et qu'il leur dit « L'aide arrive ». Et que l'aide n'arrive pas, et que 2 mois après, alors que 30 à 60 000 d'entre eux se sont fait massacrer à balles réelles, et que les gens cherchent encore les corps des gens qui sont morts en janvier, leur dire 2 mois après, sortez, c'est à vous de décider, c'est d'un cynisme absolu.
Absolument.
Et en effet, je pense moi aussi, pour le coup, que maintenant, ok, la base de l'intervention est illégale, c'était pas une manière de procéder. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui s'appelle les Nations Unies, il y a quand même un concert des nations, et ok, on veut aider les Iraniens. Il faut maintenant une intervention plus globale de la communauté internationale.
Pardonnez-moi, cher Amnal, désormais le droit humanitaire s'applique. C'est-à-dire qu'auparavant, nous n'étions pas dans un conflit armé. Mais désormais que les frappes, d'ailleurs, peu importe, vous l'avez dit, elles sont illégales, évidemment, mais maintenant que nous sommes engagés dans un conflit armé, eh bien, il y a des obligations internationales d'aller porter secours et assistance à une population en danger. Donc, aujourd'hui, c'est plus une question de cadre juridique, c'est une question de volonté politique. Mais voilà que nous nous heurtons, malheureusement, et de nouveau, du côté, en tout cas, des Européens, à la même difficulté, celle à laquelle nous faisons tout le temps face, pour l'Ukraine, également. Ça a été le cas. Ça a été le cas pour des conflits, notamment ailleurs, le conflit israélo-palestinien. Donc, on voit qu'en réalité, aujourd'hui, on a une Union européenne qui est spectatrice et qui finalement laisse le parti des brutes, que ce soit Khamenei, le défunt malheureux, que ce soit Netanyahou.
Quel regard,
Trump,
toutes les deux, vous portez sur ce qu'il reste du régime des Mollahs?
Alors, il reste un régime des mollahs, il reste bien en place. Il faut quand même se rendre compte que c'est une structure, qui, par exemple, les gardiens de la Révolution, donc cette milice du régime qui est très, très organisée en strates. Disons, il y en a un qui meurt, il y en a toujours un derrière. C'est un peu ce qu'a vécu Israël avec le Hamas, c'est-à-dire qu'on a beau tuer des gars, il y en a encore d'autres qui ressurgissent. Donc, je pense que le pari des Américains, des Israéliens, c'est de se dire, voilà, au bout d'un moment, on va réussir à en avoir tué assez et on va
mais
trouver
des
gens.
Mais pour que les choses soient claires, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout.
Oui, bah, ça veut dire que je pense...
Ils ont coupé une tête, il faut en couper beaucoup plus.
Ah bah, ça, si c'est ça leur plan, oui, c'est-à-dire que là, ça ne suffit pas. Là, le régime tient toujours.
Shirin Ardakani.
Vous savez, moi j'ai une pensée aujourd'hui pour trois personnes. La première, c'est Narges Mohammadi, qui en fait est ma cliente,
de la paix.
Et qui est dans la prison de Zanjan, qui a été proche des frappes il y a quelques jours. Et moi, je me demandais même si Narges Mohammadi n'avait pas tout simplement péri sous les frappes.
Elle est vivante?
Nous n'en savons rien. Et d'ailleurs, tous les prisonniers politiques sont en fait livrés à eux-mêmes parce
les
que c'est la guerre.
Les enfants de Narges Mohammadi sont à Paris. Hein.
Et par ailleurs, tous les prisonniers politiques aujourd'hui de toutes les prisons politiques sont livrés à eux-mêmes. J'ai une pensée pour Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont retranchés à l'ambassade de France en Iran, qui sont les témoins et spectateurs de tous les événements historiques de ces trois dernières années et qui ne peuvent pas rentrer à l'heure où on se parle. Et je ne leur ai pas parlé, mais j'imagine sans doute leur détresse. Et je pense à mes parents qui sont là sous les bombes. Et je me dis, ces gens méritent quand même de pouvoir avoir autre chose que leur angoisse. Et encore une fois, moi j'interpelle...
C'est-à-dire que quand on pose la question de maintenant les Américains doivent aller jusqu'au bout, ils ont coupé une tête, il faut qu'ils les coupent toutes, vous êtes extrêmement angoissé par l'escalade et la surenchère de la violence.
Moi je dis que les civils doivent primer et que j'appelle mes dirigeants à moi et Donald Trump n'est pas mon responsable politique, j'appelle mes dirigeants à moi à intervenir dans le concert des nations, à prendre leurs responsabilités politiques, à porter secours et assistance aux civils et de les protéger.
Voilà, les Iraniennes et les Iraniens. Vous vouliez dire un dernier mot?
Non, je voulais dire justement,
ce débat.
Comme ce travail est presque vain, parce que c'est difficile de tuer toutes les têtes du régime, en effet, maintenant, il faut trouver des moyens de discuter, de trouver des moyens d'avancer dans la diplomatie.
Hamdan Mostafavi et Shirin Ardakani, merci à toutes les deux d'avoir fait entendre vos voix, les voix des Iraniennes et des Iraniens, au début du débat de France Inter. Merci à toutes les deux. What You Want, Angèle et Justice, ensemble. Un tout nouveau single d'Angèle en attendant un nouvel album. Il est 9h45, merci à vous tous d'écouter France Inter. J'ai la joie d'être très bien entourée ce matin. Alix Van P, Mao Drama, je suis ravie, on va passer la semaine toutes les trois dans ce studio. Mao, vous vous êtes intéressée à l'appauvrissement du discours politique. Littéralement, tenter de répondre à cette question. Prend-on les Français pour des cons ?
Absolument. Et donc des cons, je sais pas. Et je me dis, c'est pas parce que Macron répond toujours avec la bouche un peu pincée, le sourcil levé et qu'il fait... Il faut tout de suite tirer des conclusions hâtives. Et c'est pas non plus parce qu'on nous envoie une lettre à nos 29 ans qui nous apprend à faire des bébés qu'il faut tout voir en noir en fait. Cependant, nous prend-on pour des cons ? J'ai mené mon enquête. Et voilà mes conclusions. Alors, pour des cons, je sais pas, mais des gosses, oui. Preuve numéro Uno. Et ça, c'est pas un jeu de société, c'est juste un chiffre 1 en langue étrangère, parce qu'être smart et bimbo, c'est ma DA. Des chercheurs ont compté le nombre de mots moyens utilisés par Trump. Combien ? Je sais pas, je vous le dis, 200 mots. 200 mots, c'est le nombre de mots qu'utilise un enfant de 18 mois. C'est-à-dire que les traducteurs de Trump sont tout le temps dans un état de sidération. Ça, ils sont là. Poutine n'est pas gentil, Macron, caca boudin, méchant, a fait bobo, aux États-Unis, prout. Son niveau, il est tellement incompréhensible, et ce que je vous dis est une vraie histoire, qu'en 2020, il y a un ingénieur qui a créé un robot qui s'appelle Margaret pour tenter d'analyser ses discours. Premier discours de 127 mots, le robot a planté. Donc dans la vie, quand vous vous dites franchement, je suis pas au top, c'est ok. Parce que Trump, il a mis un robot en burn-out. La plus grande démocratie du monde a élu un homme qui ressemble à un Saint-Nectaire qui n'a pas respecté la chaîne du froid. And it's ok. Preuve numéro doué des mi-enquêtas. Je continue à parler en anglais car j'ai fait LV2 espagnol en 5e B que j'aime bien intégrer en vacances car je sais dire hablo mojito. Je sais également dire el piel que habito, habla con ella volver todo sobre mi madre. Oui, c'est toute la filmographie d'Almodovar, mise côte à côte. Ma nouvelle preuve, c'est qu'on est en période de municipale assez tendue, puisque je fais des paralysies du sommeil en me demandant quelle va être la nouvelle vidéo de Sarah Knafo. Et sa première vidéo, elle s'est pas fait chier, c'était carrément face à un gosse. Donc c'est pas qu'on nous prend pour des gosses, c'est que c'est le cas. Et d'ailleurs, le gosse pas du tout briefé, tu sais, il était là. Bah, c'est que les méchants, ils sont toujours marrons. Et en plus, leurs peines planchers sont pas respectées conformément à l'article 127-4 du code pénal. C'est bien ça que je devais dire, maman. Il y a beaucoup d'élus qui simplifient leur discours parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Mais en fait, c'est juste une stratégie discursive pour remplir un vide intellectuel. Du coup, maintenant, on dit plus un truc important comme l'état-providence est nécessaire à la poursuite de notre société, mais des choses comme « Ce matin, le temps était voilé. Voilé, comme par hasard !» Preuve numéro trio. Quand un journaliste dit à Macron, les Français n'ont pas trop aimé la dissolution. Il dit pas « je suis désolé ». Il dit « je suis désolé que les Français n'aient pas compris ma démarche ». Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il assume qu'en fait, il a pris comme ça tous les votes. Il en a fait en fait une boule de papier qu'il a en fait digérée dans le simple but en fait de la déféquer. Vous vous rappelez aussi le moment où il a dit « for sure ». On était là genre « trop marrant, le président il parle en anglais ». Trop marrant comme en deux mots lui a donné deux points de cote de popularité. Trop marrant parce que « for sure », on sait pas de quoi il parlait avant. Alors qu'avant il parlait d'un truc important, il parlait de la lenteur des décisions diplomatiques. Donc maintenant on a juste parlé du fait qu'avec des lunettes, Macron il ressemble un petit peu à un producteur porno des années 70. Et en attendant, aucun accord de paix n'a été trouvé à Gaza. Donc, prouvons-leur qu'on n'est pas des gosses, prouvons-leur qu'on a nos dents définitives et allez voter dans le sens de l'histoire.
Mao Drama. Alors, on vous retrouve pour les dernières de votre spectacle Drama Queen à La Riche, le 5 mars et le 13 mars. Je voulais le dire en espagnol, mais j'ai jamais fait l'espagnol. Au Femina à Bordeaux, vous me pardonnerez ce mauvais
Gracias.
Français.
Gracias.
La grande matinale sur France Inter.
Alix Van P et sa nouvelle tête. C'est à vous, Alix.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Nouvelle Tête. Les lundis matins sont parfois moroses, alors pour égayer la matinée, je suis ravie de vous présenter un humoriste tout droit sorti de ce petit monde parallèle bizarre qu'est Internet. On a de la chance, il est en chair et en os avec nous, et en plus c'est sa toute première radio. Bonjour Maxime Rochman.
Bonjour.
Merci d'illuminer ce studio.
petit enfant.
C'est vrai, on nous prend pour des enfants, c'est pour ça. Merci d'illuminer ce studio par votre élégance. Je précise pour nos auditeurs, Maxime a une moustache soigneusement découpée, une mèche délicatement peignée, un sourire Colgate, le gendre idéal, quoi. D'autant qu'il est très sérieux, fils et petit-fils de fonctionnaire, employé dans une institution publique. Quelle stabilité, bravo. Mais comme d'habitude, nous les femmes, on le sait, il faut se méfier du gendre idéal. Sur son temps libre, Maxime a une autre activité. Il saisit nos intonations, nos tics de langage, nos postures. Et puis sur Instagram, il se moque de nous en incarnant des personnages souvent insupportables. Ses plus de 200 000 abonnés suivent ses vidéos satiriques où tout le monde en prend pour son grade. Les start-uppers, les coureurs Strava ou encore les parisiens prétentieux. Maxime,
ah ouais.
Oui, il y en a. Ces personnages, vous en faites la caricature parce qu'ils vous agacent ?
Parce qu'il m'amuse énormément, mais d'abord je suis ravi d'être ici, j'ai l'impression que c'est mon permis
aussi.
De conduire là.
C'est vrai.
Un peu dans cet état là de ouh là là, dis donc, c'est tout stressant. Mais
non,
tout
va bien. Stop.
Oui, on s'arrête, on va pas louper la priorité à droite. non, oui, j'aime beaucoup les Parisiens parce qu'ils sont, c'est quand même une source permanente d'humour. Enfin, ils conceptualisent plein de choses, etc. J'adore. Mmh. Et donc c'est mes congénères, donc j'adore me moquer d'eux parce que je suis quand même de nature assez taquine. Et j'aime bien ça.
Et donc votre humour repose sur la satire. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Est-ce qu'on manque d'autodérision justement ?
Ah, je pense que oui. Alors on manque d'autodérision, puis en plus, bon, bah, l'actualité actuelle est à l'actualité actuelle.
Oui.
Mon Dieu.
Mmh.
L'actualité est assez dure, et donc je pense qu'il y a besoin d'humour permanent, encore plus maintenant. Et l'autodérision, j'aime beaucoup l'autodérision parce que c'est bien de se moquer de soi en fait. Ça permet de prendre du recul, de la distance et de se détendre.
Mais c'est ce que vous faites toute la journée, de vous moquer de vous, parce que vous vous moquez des Parisiens, mais vous êtes Parisien. Vous vous moquez des start-uppers, mais vous avez travaillé avec des start-uppers. En fait, vous êtes la caricature idéale.
Absolument. En fait, je me moque de moi-même, en fait, de tous mes personnages. Il y a une partie de moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse pour eux, en fait. Parce que, en fait, c'est moi, en fait. En fait, c'est moi, voilà. Il n'y a pas de miracle.
Alors, vous étiez lancé sur l'autoroute de la vie professionnelle, si je peux dire. Et puis, soudain, bam, frein à main, comme le businessman dans Starmania, vous vous êtes dit...
J'aurais voulu être un martyr.
Et ouais, alors, pas sûr que vous êtes monté dans les aigus comme le chanteur Claude Dubois, mais quel a été votre déclic pour vous lancer dans l'humour ?
Ah, vous voulez la version officielle ou
non,
officieuse ?
L'autre. Officieuse.
Ah, alors, version officielle, alors je voulais rencontrer un public, je voulais avoir du sens dans ma vie. Non, la vérité, le déclic, ça a été une énorme cuite que j'ai prise un 1er avril, ça ne s'invente pas. Et en fait, j'ai eu ce moment de réalisation où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as envie dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et puis, je me
et
suis rappelé...
Et qui prend des décisions les lendemains de cuite ?
Ah bah, franchement, non, mais celle-là était assez monumentale. Donc, il y a un vrai moment de remise en question. En fait, je me suis dit, mais... T'as toujours fait rire, tu adores le théâtre, quand t'étais en école, t'étais dans une troupe de théâtre dans laquelle tu jouais des sketchs quasiment tous les soirs sur une période de 2 mois. C'était le moment où t'as été le plus heureux dans ta vie, donc vas-y, fonce, de toute façon, t'as 28 ans, faut y aller là.
Une belle cuite révélation.
Ouais,
et là,
ça.
Vous avez décidé de prendre un pseudo, Rochman, parce que si je ne me trompe pas, c'est un pseudo, c'est pas votre nom de famille.
Non, c'est un pseudo. En fait, c'est mon nom sur Instagram de base, et en fait... Ça m'allait bien d'avoir un pseudo, parce que comme j'ai une vie professionnelle à côté, j'avais besoin de me protéger, voilà.
Et pourquoi Rochman, ça vient d'où ?
Ça vient, en fait, c'est le surnom que donne ma mère à mon père quand elle l'engueule. Donc toute ma vie, j'entendais Rochman, viens ici. Donc là, je me suis dit, allez hop, parfait. On va mettre ça comme nom sur Instagram.
Là,
c'est
là,
bien
là,
drôle.
Là.
J'ai la chance d'avoir des parents très drôles, donc c'est...
Et il s'est allongé sur le divan ou jamais ?
Ah, qui ça ? Rochman ou mes parents ?
Tout le monde. Alors, pour les auditeurs qui vous découvrent, Maxime Rochman, je nous mets dans l'ambiance. On va écouter l'un de vos sketchs vidéo qui a cartonné, qui a été tourné dans des toilettes, parce que pourquoi pas ? Vous imitez un homme qui se prend pour un grand intello et qui nous présente ses meilleurs livres rangés dans ses toilettes.
C'est Zola qui disait que les plus belles bibliothèques sont toujours aux toilettes. Sauf qu'il a dit ça dans Les Promesses de l'Aube ou dans La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est le grand drame de ma vie, c'est de ne pas pouvoir relire Zola pour la première fois. Et puis mon petit chouchou, Les Zizi de Paris, un grand classique de Sergio Neptunio Martin. Ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est sa vertu universelle. L'auteur, finalement, en exposant ainsi tous ses zizi, est-ce qu'il s'interroge pas sur la fragilité du monde ? À méditer, ça.
Eh oui, on va méditer là-dessus. Alors, ce sketch, personnellement, me rappelle ceux des Inconnus, ou alors les sketchs de Franck Dubosc, notamment ces sketchs sur le con dans Pour toi, public. Est-ce que c'est des modèles pour vous ?
Ah, c'est des modèles absolus. Les Inconnus, Franck Dubosc, mais plein d'autres aussi. D'ailleurs, Franck Dubosc, dans Pour toi, public, pour moi, c'est l'inventeur des sketchs reels sur Instagram. C'est, d'ailleurs, je conseille à Franck Dubosc, si je peux me permettre.
Mais allez-y,
Franck, republier... Allons, on se tutoie. Franck, republie tes sketchs pour toi public sur TikTok et Instagram, tu vas cartonner. Sketch de 2 minutes 30, un personnage, un archétype, hop. Et hop, 20 ans plus tard, c'est ce que tout le monde fait.
Et alors dans vos vidéos, vous avez quand même des souffres-douleurs, les écoles de commerce, la Startup Nation, et vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres personnalités d'Internet, comme Galant Cyr par exemple, Antonin, qui se moquent plus ou moins violemment de ce petit monde. Pourquoi est-ce que ce type d'humour résonne à ce point aujourd'hui selon vous ?
Je pense qu'il y a un ras-le-bol généralisé de... de la du bullshit et de la surcommunication. Je pense qu'on essaye de ce monde-là a été porté au nu et a essayé de révolutionner un peu tout à coup de com. Et je pense que les gens sont pas bêtes et arrivent à très bien discerner ça. Et donc, que ce soit Galantir sur le monde du travail ou moi avec un peu plus le Parisien, etc., et les concepts un peu à la con, je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça résonne autant. Après, ça résonne dans les centres urbains, dans les métropoles, à Paris, à Lyon, à Marseille. Heureusement, c'est pas dans toute la France, quoi.
Alors, dans votre galerie de personnages, il y a un certain Maxime qui est atteint de présidentialite, un homme qui est donc obsédé par le pouvoir, persuadé qu'il va devenir président de la République alors qu'il n'a absolument aucune chance. Il se promène en costard toute la journée, il a les dents qui rayent le parquet. Qu'est-ce qu'il nous dirait, ce personnage, s'il était avec nous aujourd'hui dans ce studio, d'autant qu'il est candidat aussi à la mairie de Paris, si je ne me trompe pas.
Alex Vampé, bonjour.
Bonjour.
Enfin, France Inter s'intéresse à moi.
Mais oui, il paraît que vous êtes sûr de remporter l'élection, pourquoi ?
Mais parce que, Alex Vampé, je suis le seul candidat à proposer des mesures de bon sens pour les Parisiennes et les Parisiens. Première mesure, rendre le 15e arrondissement à Issy-les-Moulineaux.
C'est très vrai, merci.
Bah oui. Oubliez la propreté, la sécurité, les gens s'en foutent. Moi, tous les vrais Parisiens me disent la même chose. On en a marre qu'on nous confonde avec ces campagnards.
Et alors, comment vous comptez vous y prendre ?
Je vais vous répondre, Alex Vampé, en toute franchise. J'ai un accord de principe avec le maire d'Issy-les-Moulineaux, monsieur André Santini. Je suis allé le voir sur son lit d'hôpital, et je lui ai demandé... « Voulez-vous le 15e ?» Ce à quoi il m'a répondu « J'ai pris ça pour un oui.
Eh bien, ça a l'air bien parti, en tout cas.
Absolument, je suis crédité à 49% au premier tour dans le prochain sondage à paraître dans Psychiatrie Magazine. La dynamique est là.
Eh bien oui, elle semble là. Merci beaucoup, Maxime, pour cette imitation de votre double mégalo, qui est heureusement un personnage fictif, hein, je le rappelle. C'est une bonne chose qu'il commence par les élections municipales, c'est plus à sa portée. Alors voilà, merci beaucoup, Maxime. Je rappelle que vous faites du stand-up, que vous avez un compte Instagram extrêmement drôle qui s'appelle Maxime, Maxime Rochman, et que sur scène, vous imitez parfois le dauphin. Merci beaucoup, Maxime Rochman.
Tu veux que je fasse le dauphin ?
Vas-y. Oui, moi, c'est grave.
Je sais aussi faire le moteur 1.9 turbo diesel de la Xantia de mes parents, si vous voulez.
Allez-y, et après, j'annonce toute l'équipe.
Allez, super. À quoi ça tient une carrière ?
Merci, le mot de la fin. Et merci, Alix. Allez, toute la semaine, la grande matinale vous est présentée et préparée par Maria Pasquet et Christophe Imbert à la réalisation. À la programmation, à la documentation, il y a toute une super équipe. Charlotte Matou, Perrine Malin, Jamélista Delman, Joachim Taïeb, Jean Brossier, Juliette Drone, Louise Tempéro et Aurore Mansip. Merci à tous les standardistes de France Inter. Et puis vous restez à l'écoute parce que juste après, il y a grand bien vous fasse. Est-ce que Ali est là ?
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on s'intéresse aux expériences de mort imminente d'un point de vue scientifique, d'un point de vue neurologique. L'expérience de mort imminente, cette fine frontière entre la vie et la mort qui n'a rien à voir avec la mort cérébrale. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France.
À tout à l'heure.